voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Judith Grimbach est réalisatrice. Elle a tourné le film Une idée folle dans 9 établissements scolaires, publics et privés, de la maternelle au collège aux quatre coins de France. Une idée folle se pose la question du rôle de l'école au XXIe siècle. Ce documentaire tente de répondre à la question « Quel est le défi des citoyens de demain et comment les y préparer ?» Sans doute en cultivant l'empathie, la créativité, la coopération, la prise d'initiative ou encore la confiance en soi. Dans cette émission La Voix du Kaizen, je vous emmène à la rencontre de Judith.
Je suis réalisatrice, je viens de réaliser un film qui s'appelle « Une idée folle » qui parle du sujet de l'éducation et plus principalement du rôle de l'école et de l'éducation dans notre société. Avec cette idée donc à la fois du rôle de l'école mais aussi de ce que ça veut dire d'être citoyen finalement au XXIe siècle, qui est la question qui est derrière la première et qui est encore plus large et peut-être plus importante. On a pris l'habitude de penser qu'être citoyen ça voulait dire aller voter une fois tous les 5 ans, deux fois tous les 5 ans et puis respecter la loi, en tout cas à peu près entre les deux, et on se rend bien compte que ça fonctionne plus, cette définition. Et si on veut former des vrais citoyens, on ne va plus pouvoir se contenter d'asséner notre devise républicaine, d'une heure d'éducation morale et civique par semaine, ou même d'une semaine de lutte contre le racisme et l'antisémitisme par an. C'est très bien, c'est très important, mais ça ne suffit pas. Et en fait, dans ce film qui a été tourné dans 9 établissements scolaires partout en France, de la maternelle au collège, et qui sont publics et privés, la citoyenneté, en fait, c'est la colonne vertébrale du projet pédagogique. Parce que pour se sentir libre dans une classe, il faut pouvoir se déplacer, il faut pouvoir créer, il faut pouvoir se tromper, il faut pouvoir prendre des décisions, il faut pouvoir proposer des choses aussi. Pour se sentir l'égal de l'autre, il faut savoir qu'on a soi-même de la valeur, donc il faut avoir développé de l'estime pour soi. Et puis, en fait, la fraternité, c'est pas un concept. On l'entend beaucoup, mais c'est quelque chose de très concret, c'est quelque chose qui s'éprouve au quotidien et que on comprend chacun le jour où on est en difficulté ou quelqu'un nous vient en aide ou inversement. Donc voilà, c'est un peu de ça qu'on a essayé de parler dans Une idée folle.
Et dans ton parcours à toi, ton parcours personnel, qu'est-ce qui fait que tu t'interroges sur le rôle de l'école et sur le système éducatif? Comment est-ce que tu en es arrivé à ça?
Alors moi, l'école, j'avais plutôt envie de la quitter le plus rapidement possible. Quand j'y étais, donc j'ai passé mon bac et ensuite je ne suis plus jamais retournée, enfin je n'ai pas fait d'études ni rien. Et au moment des attentats de janvier 2015, non pas qu'il se soit passé quelque chose de spécifique à l'école à ce moment-là, mais il y a eu un espèce d'effet loupe sur l'école. D'abord parce qu'il y avait quand même des anciens enfants, anciens élèves de l'école de la République qui avaient décidé de tuer d'autres gens, et puis aussi parce que à certains endroits, et je dis bien à certains endroits, c'était pas du tout l'énorme phénomène qu'on a décrit, mais dans certaines conditions, on n'arrivait pas à faire une minute de silence quand il y avait eu 17 morts. Et je me suis dit, comment on en arrive à une telle fracture, qui était une fracture sociale, hein, beaucoup plus que scolaire, pour qu'on en arrive à pas pouvoir faire une minute de silence quand il y a 17 morts, quels qu'ils soient. Et donc, je me suis dit, si on veut changer ça, il faut sûrement commencer par l'école, et c'est l'école qui va être un bon levier, en tout cas l'un des leviers pour arriver à changer ça.
Et c'est comme ça que tu as mis un pied dans cet univers que tu ne connaissais pas plus que ça avant d'y entrer?
Non, et c'est comme ça que j'ai remis les pieds à l'école, que j'avais quitté avec bonheur et que j'ai été paradoxalement très très heureuse de retrouver, parce que quand on arrive dans ces écoles, il y a un espèce de sentiment de... quel temps j'aurais gagné si j'étais passée par là. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on parle à des enfants qui, sur certains points, sont plus matures ou plus engagés que la majorité des adultes que je peux croiser, qui ont un rapport très très sain à l'autre, parce qu'ils ont eux-mêmes appris à prendre confiance en eux, qu'ils ont appris à gérer leurs émotions, donc du coup leur rapport à l'autre est apaisé, ils ont développé de l'empathie et du coup ils sont capables de coopérer les uns avec les autres. Et donc la deuxième chose qu'on se dit, c'est qu'on observe ce qu'on voit et puis on se dit à quoi ressemblerait la société si tous les adultes étaient passés par là.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
dans les écoles que j'ai visitées, si un enfant a du mal à prendre la parole en public, etc., d'abord on l'aide à le faire et puis on essaie de comprendre pourquoi c'est compliqué et puis on les accompagne. Et donc il y a quand même une très grande différence, je trouve. Et puis je me suis pas sentie dans ma scolarité. J'avais l'impression de faire partie d'un groupe, mais j'avais pas l'impression de pouvoir être un individu au sein de ce groupe, en fait. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Enfin, l'une des choses que je trouve très intéressante dans cette école, c'est que pour avoir un groupe qui fonctionne, en fait, il y a d'abord un travail sur chacun. Il y a la valorisation de chaque individu pour ce qu'il est. Il y a la volonté de mettre en avant à la fois ce qui le caractérise et ce qui le différencie, et puis ses forces aussi, qui ne sont pas forcément des forces purement scolaires, mais voilà, et de valoriser chaque enfant dans sa globalité pour ce qu'il est, oui, en tant qu'élève, mais pas que, aussi en tant qu'enfant. Et donc, quand un enfant a des compétences psychosociales particulièrement développées, qu'il a une capacité à particulièrement bien s'entendre avec ses camarades, ou à gérer un projet, ou à proposer des choses, etc., c'est mis en valeur au même stade, au même rang, en fait, que de fortes capacités en maths ou en français, quoi. Ça, c'est ce que j'ai vu dans tous les établissements scolaires qui sont dans mon film, qui sont publics et privés. Ils ont tous ça en commun. Il n'y a pas de rupture entre le privé et le public là-dessus. Il y a des enseignants partout, certains enseignants, mais beaucoup plus que 9. Il y en a 9 dans le film, mais il y en a beaucoup plus que ça, d'enseignants qui ont envie de mettre ça en place. Et il y en a dans le public comme dans le privé. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est absent de l'éducation nationale. C'est pas systémique dans l'éducation nationale, mais ça existe à beaucoup d'endroits.
Quand tu me parlais du rôle de l'école, c'est quoi selon toi? À quoi va servir l'éducation? Qu'est-ce que c'est? Quel est le rôle de l'école?
Pour moi, le rôle de l'école, c'est de former une future génération de citoyens qui soit épanouie et qui soit responsable et qui ait envie de transformer positivement la société qui les entoure.
Ça, c'est dans l'idéal.
Bah c'est, pour moi, c'est le rôle que devrait avoir l'école. Ouais.
Donc toi, Judith, tu es réalisatrice du film Une idée folle. Tu as pris des images dans 9 écoles. Est-ce que tu peux me présenter les différentes écoles et comment est-ce qu'elles ont été choisies?
Elles ont été choisies parce qu'elles développaient chez les élèves, en plus de transmettre des savoirs fondamentaux, évidemment, et j'insiste là-dessus parce qu'il y a parfois une croyance qui est de penser que les savoirs fondamentaux sont opposés au développement de certaines compétences psychosociales, alors que les deux se nourrissent énormément. Et donc, elles ont été choisies parce qu'elles développent chez les enfants, en plus de ces savoirs fondamentaux, des qualités d'empathie, de coopération, de prise d'initiative, de confiance en soi chez les enfants, avec vraiment cette volonté d'en faire des citoyens épanouis et responsables. Et parce que toute l'équipe pédagogique est derrière ce projet-là. Voilà, il y a un projet d'établissement à chaque fois. Il y a aussi la volonté chez ces établissements-là de faire tache d'huile, c'est-à-dire d'influencer aussi le territoire sur lequel elles sont, d'essayer d'ouvrir les portes de l'école au maximum vers l'extérieur. C'est comme ça qu'elles ont été sélectionnées. Voilà.
Donc c'est aussi les enseignants, les pédagogues ont un rôle fondamental dans là-dedans. C'est vraiment une remise en question permanente finalement de ce qu'on est, nous, en tant qu'adultes. Il y a un développement personnel de chaque personne, chaque individu, pour pouvoir remettre en question, parce que nous, on n'est pas issus de ces écoles-là. La plupart des enseignants d'aujourd'hui sortent d'un système très classique.
Oui, il y a une déconstruction au départ de ce qu'on a appris. Et ces enseignants, pour beaucoup, ont à un moment senti un espèce de malaise dans leur façon de pratiquer leur métier. C'était pas en accord avec leur idéal, c'était pas en accord avec leurs valeurs, et donc ils se sont mis à questionner leur pratique pédagogique, ils se sont mis à chercher, et en fait ils n'ont jamais arrêté de chercher, c'est-à-dire qu'ils sont dans une posture qu'eux-mêmes définissent comme une posture de chercheur. Ils se remettent en question tout le temps pour essayer d'aller plus loin, pour essayer d'inventer des choses, et aucun d'entre eux n'a du jour au lendemain fait table rase de tout ce qu'il avait appris, de toute sa pratique pédagogique. En fait, au moment où ils ont ressenti ce malaise, ils ont commencé à essayer des petites choses, et puis au fur et à mesure, s'est constitué leur façon de pratiquer leur métier, et elle s'enrichit, voilà, après, tous les jours, quoi.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Tu pars avec ta caméra à la rencontre de différentes écoles alternatives. Est-ce qu'on peut en prendre l'exemple d'une qui t'a marqué et m'expliquer pourquoi, comment et comment sont articulées les journées? Tu disais à un moment donné que tu aurais gagné beaucoup de temps si tu avais pu passer par ce type d'école. Donc, tu peux revenir sur une expérience qu'on retrouvera peut-être dans ton film, d'une école dans laquelle tu t'es retrouvé, où tu t'es dit waouh, incroyable.
Il y en a beaucoup, mais il y a plusieurs exemples. Il y a, par exemple, l'exemple des ateliers philo qui sont pratiqués dans beaucoup de ces écoles où, en fait, on permet aux enfants de réfléchir à une question que beaucoup d'adultes jugeraient pas à leur niveau, trop compliquée, etc. Et en fait, quand on écoute les enfants, quand on les laisse parler, quand on leur fait confiance, ils disent des choses quand même assez... très frappante, quoi. On est très frappé par leur maturité, par la distance qu'ils ont parfois avec les choses. Enfin, là, je pense à un atelier philo chez Isabelle Peloux à l'école du Colibri sur la question de peut-on rire de tout. Y a un élève qui avait dit parfois quand quelqu'un a une difficulté qui nous fait peur, on rigole, mais en fait c'est juste parce qu'on a peur. Moi, il avait, je sais pas, 8-9 ans. Enfin, j'ai très frappée de voir la maturité. Je trouve qu'il fallait une vraie maturité, un vrai recul pour dire ça. Il y a dans la classe de Philippe Viard où les élèves dans le Val d'Oise où les élèves peuvent s'exprimer librement de 8h30 à 9h et proposer des projets ou réciter des poèmes ou faire un peu ce qu'ils veulent. Il y a Misia qui avait 9 ans à l'époque qui est arrivée avec un grand carton vide et qui a dit bon, cette année, on n'a rien fait avec les Restos du Cœur. Alors, je vous propose de mettre ce carton devant l'école et on va mettre nos jouets avec lesquels on ne joue plus. Et quand le carton sera plein, je le donnerai à ma mamie parce qu'elle a une amie qui travaille au Restos du Cœur. Et ça, en plus, ça finit par « qu'est-ce que vous en pensez ?» Et du coup, ça débouche en fait sur un débat citoyen au sein de la classe avec les gens qui expriment leurs opinions, qui expliquent pourquoi ils sont pour, pourquoi ils sont contre, pourquoi ils pensent que ce n'est pas le bon moment. Et donc, c'est une façon, à un moment... qui leur permet d'articuler leurs pensées, de prendre la parole en public, d'argumenter, de respecter, d'écouter la parole de l'autre, etc. Donc c'est quotidien dans cette école. C'est-à-dire que quand on y va, tout est comme ça. Absolument tout. Et même et le rapport qu'ils ont aux adultes aussi est très intéressant parce que je crois qu'il y a une peur chez pas mal d'enseignants de si on est dans un autre type de rapport, qu'on va perdre le contrôle de sa classe, qu'il n'y aura plus de respect, etc. Et j'ai un peu le sentiment inverse. J'ai l'impression qu'il y a encore plus de respect du fait de l'écoute et du fait que ces enfants se sentent respectés pour ce qu'ils sont, écoutés et dignes de... capables de proposer des choses et qu'on leur fait comprendre. En général, en tout cas, les enseignants que j'ai rencontrés, ils sont à 2000% engagés dans le fait d'aider les enfants et de les faire progresser. Et oui, c'est une obsession, quoi. Et c'est une passion, vraiment.
En tant que parent, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux parents qui se posent la question de l'école, qui ont, ça y est, ils ont un enfant, il va falloir le mettre à l'école. Tout un panel d'écoles, de solutions, de possibilités aujourd'hui. Quelles sont les bonnes questions, quelles sont les clés que tu aurais envie de donner aux parents pour trouver la bonne solution, la bonne école pour leurs enfants?
Je leur dirais pas comment trouver la bonne école pour leurs enfants, mais je crois que ce qui est très important, c'est qu'on se rende compte que l'éducation, c'est l'affaire de tous et qu'on a tous un rôle à jouer pour faire évoluer le système éducatif où qu'on soit enseignant, parent, enfant, jeune ou simple citoyen. Je pense qu'on peut tous faire bouger le système éducatif. Et du coup, c'est pour ça en fait qu'on a besoin d'avoir un débat qui soit à la hauteur des enjeux en fait sur le thème de l'éducation, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Et c'est un débat auquel les parents doivent et peuvent participer. Et ça passe parfois par commencer à ouvrir le dialogue avec les enseignants, avec les gens qui sont en contact avec leurs enfants. Ça passe peut-être aussi et beaucoup par proposer leur aide, par essayer de proposer de faire des choses avec les enseignants, de construire ensemble une vraie communauté éducative, etc. Donc je pense pas que ce soit juste un truc de où est la bonne école et je dois choisir la bonne école, mais c'est aussi comment je peux être acteur pour transformer le système tel qu'il est, qui a beaucoup de failles, et comment on peut tous ensemble se poser d'abord collectivement la question du rôle de l'école et décider ensemble de ce que ça, de ce qui doit être, et puis après être acteur de ça et jouer un rôle.
Si tu devais créer ton école, ou l'école de tes rêves, l'école idéale pour préparer les citoyens de demain, elle serait comment ?
Elle serait comme toutes les écoles que j'ai filmées. Il faut venir les voir dans le film. Elles sont... Tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, elle ressemblerait exactement à ce qu'on voit, dans Une idée folle.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Okay. Et pour redonner cette dimension un peu visuelle à celui qui n'a pas vu le film, L'enfant arriverait à quelle heure le matin? Qu'est-ce qu'il ferait dans la journée? Comment seraient rythmées les activités?
Ce serait une école où ça serait une école où les élèves pourraient être acteurs, pourraient proposer des choses, pourraient interagir beaucoup plus librement les uns avec les autres, pourraient se déplacer plus librement, où il y aurait une flexibilité, peut-être justement de l'emploi du temps des journées pour permettre aussi de s'adapter à ce qui se passe, où tous les enfants se sentiraient libres d'exprimer, de s'exprimer, de créer, où on favoriserait, on encouragerait leur créativité, où on développerait leur capacité à gérer leurs émotions, à se connaître et à aller vers les autres. Et tout ça aussi dans le but de maîtriser, encore une fois, la lecture, l'écriture, les mathématiques, parce que je suis convaincue qu'on ne peut pas apprendre à lire, à écrire, à raconter à un enfant qui pense qu'il est nul et qu'il apprendra jamais rien. Donc je crois qu'on doit vraiment se mettre à considérer l'enfant dans sa globalité.
Est-ce que tu peux me parler un peu du système d'évaluation? Parce que j'entends beaucoup parler de ça.
Dans les écoles du film, l'évaluation existe. C'est pas... parce que ça encore, c'est une idée reçue. C'est on jette les notes à la poubelle et puis on s'en moque, on n'évalue rien. C'est pas le cas, mais encore une fois, on évalue tout un tas de choses différentes. C'est-à-dire qu'on évalue... On ne met pas juste une note, on évalue, par exemple, la capacité à comprendre une consigne, la capacité à coopérer avec les camarades, la capacité, le rôle social qu'il y a dans la classe, enfin, les responsabilités citoyennes qu'on a dans la classe. On évalue tout type de choses, ce qui permet de donner des points d'appui et des points d'encouragement à tous les enfants. Et dans beaucoup d'établissements aussi, il y a une auto-évaluation des élèves. Ça veut dire que, en fait, l'évaluation se fait quand l'élève se sent prêt à être évalué sur une compétence. Donc il dit, bah là, je voudrais être évalué sur les fractions. Donc là, l'enseignant va lui donner des exercices, il va faire les exercices. Si c'est bien, c'est vert. Si l'exercice n'est pas réussi, c'est rouge. Et rouge, ça veut dire à refaire, en fait. Voilà. Et donc, c'est une autre approche de l'évaluation. Au lieu de dire à un instant T, il faut que tout le monde sache la même chose, on permet à tout le monde d'avancer à son rythme et d'avoir, évidemment, à la fin d'un cycle, maîtrisé toutes les compétences du cycle. Mais c'est une approche différente.
Autre chose que j'entends beaucoup, c'est le côté élitiste souvent des écoles alternatives, parce qu'elles sont souvent payantes.
Dans le film, il y a 5 établissements scolaires, 4 écoles primaires et un collège qui sont publics. C'est parce que l'enjeu, c'était aussi de montrer que ce qu'on considère comme étant alternatif, innovant, existe aussi au sein de l'institution. Maintenant, pour moi, l'enjeu, c'est effectivement de faire bouger l'éducation nationale pour que tous les enfants aient accès à ça, même si les écoles privées sont pour beaucoup, ont permis à beaucoup de ces innovations, à beaucoup d'expérimentations de se faire, et elles sont aussi des pôles ressources, c'est-à-dire qu'elles forment chacune beaucoup, beaucoup d'enseignants, notamment du public, qui ont envie de s'ouvrir vers ça. Et donc c'est trop simple de dire il y a des écoles privées qui sont élitistes et puis il y a le public qui fait rien. C'est pas vrai, ni dans un sens ni dans l'autre, en fait. Plein d'écoles privées qui essayent vraiment d'ouvrir leurs portes, de créer de la mixité. Et surtout, elles font vraiment beaucoup de formations pour les enseignants.
La Voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les 2 mois.